Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Sommaire aujourd'hui, une spéciale HK. Eh oui, le cinéma hongkongais a de nouveau le vent en poupe via la ressortie de nombreux titres chez Carlotta Film. Eh oui, parce qu'en ce moment, le cinéma hongkongais, c'est un peu plus difficile quand même s'il y a encore des choses qui nous arrivent. On en reparlera dans les semaines, mois à venir, des choses passionnantes d'ailleurs. Là, Carlotta a la bonne idée, Carlotta Film, de nous de sortir des films. Alors, pour certains, ils étaient déjà sortis. Mais là, dans des très belles copies, et qui sont un peu l'expression et la représentation de ce qu'a été la richesse du cinéma hongkongais dans les années 90-2000. Il y a The Moon Warriors de Sammo Hung, Guerre de l'ombre de Ringo Lam, Bullets Over Summer de Wilson Yip et Moonlight Express de Daniel Lee. Et Carlotta a souvent des bonnes idées, et là ils ont eu la bonne idée de sortir en salle et en vidéo, en salle durant l'été 2024 et en vidéo là, tout récemment, le classique taïwanais de Joseph Kuo, La Vengeance du Dragon Noir. On vous en causera plus longuement en début d'émission. Certes, c'est un film taïwanais, mais nous ne pouvons que craindre pour cette île de subir un sort comparable à celui de Hong Kong. Alors l'équipe de Culture Prohibée remercie Lucie Mautier pour son aide sur cette émission. Pour causer cinéma hongkongais, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demey, dit le Bruce Lee noir de Compiègne, et oui, le sacré Damien, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimera Tech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le Donnie Yen Picard, qui chaque nuit de pleine lune tabasse de sanglantes chroniques pour RCA. Bonjour Thomas.
Bonjour Jérôme et bonjour Damien et bonjour à toutes.
Bon, reprenons notre sérieux les amis, tout d'abord pour parler d'un film, on va d'abord aller à Taïwan en 1968. Pour parler d'un film qui s'appelle La Vengeance du Dragon Noir de Joseph Kuo. Alors c'est un classique hein, du cinéma taïwanais. Donc je vous l'ai dit, c'est aussi disponible chez Carlotta Film. Parce que comme je vous le disais dans l'intro, s'il y a bien un lien entre Hong Kong et Taïwan, c'est celui d'être sous le joug menaçant de la Chine voisine. Et pour en savoir plus d'ailleurs, je vous rappelle que Carlotta avait sorti avec plein de bonus qui parlent de tout ça, Touch of Zen et Dragon Inn, deux autres chefs-d'œuvre taïwanais qui sont signés King U. Et King U qui est sans doute la plus grande légende du cinéma taïwanais, et qui a vécu donc une histoire personnelle qui entre bien en résonance avec l'histoire de son pays et puis de toute sa région. Alors, La Vengeance du Dragon Noir, qu'est-ce que ça raconte, hein. C'est un film donc de 1968, ça je vous l'ai dit, qui est signé Joseph Kuo. Et c'est l'histoire de Tsai Ying-jie, qui à 6 ans a assisté au massacre de sa famille, hein, un massacre perpétré par 5 seigneurs malfaisants, dans le but de s'emparer d'une épée légendaire, l'épée chasseuse d'âmes. Et bien des années plus tard, devenu un maître dans le maniement de la lame, le jeune homme, et bien sûr, évidemment, il veut se venger, il va partir à la recherche des assassins de ses parents. Et puis, bien, au cours de son périple, il va être, comment dire, secouru par l'intrépide Hirondelle. Mais il ne sait pas que cette dernière, qui se prénomme Tsai Ying-jie, n'est autre que la fille de Yung Shun-shun, l'un des hommes qui est sur sa liste. Et à partir de là, mes chers amis, on va se retrouver devant un film de sabre. Un petit côté western d'ailleurs, hein, assez somptueux.
Alors, La Vengeance du Dragon Noir a un peu un titre trompeur, parce que le Dragon Noir est un personnage, mais c'est pas notre jeune héros qui cherche à se venger. Alors, ça faisait longtemps, extrêmement longtemps, que j'avais pas vu de film de sabre asiatique comme celui-ci, et j'ai pris un immense plaisir à me replonger dedans, surtout que l'affiche est magnifique. L'action est absolument délicieuse. En fait, l'une des forces de ce film, c'est bien évidemment les scènes de combat, et heureusement, vu que c'en est le centre, mais c'est aussi les différents lieux où les combats ont lieu, justement, dans des endroits en fait, qui changent un peu la géométrie de l'affrontement à plusieurs moments, notamment l'affrontement dans l'auberge, que j'aime énormément, où notre héros est censé être pris au piège, mais qu'il va s'en sortir. Et un autre moment que j'apprécie beaucoup, c'est un affrontement dans une rivière, mais surtout l'affrontement à la plage qui conclut tout le combat, qui est d'une beauté mais saisissante. Ça participe grandement au plaisir du film, parce que ça permet de mettre en avant des plans qui sont beaux, mais aussi de donner des montages qui sont extrêmement efficaces. Il y a quelques essais justement que Kuo tente dans le montage de son film, quelques effets qui sont appréciables, notamment certains moments où les personnages sont légèrement accélérés, ou certains redécoupages de plans qui permettent de faire tomber l'épée jetée en l'air bien dans son fourreau. L'une des forces de ce film, bien évidemment, c'est de parler de vengeance, mais c'est aussi la question morale qu'il arrive à y lier. C'est une question qui ressurgit uniquement à la toute fin, qui fait que les deux combats qui terminent le film, j'ai beaucoup d'amour pour eux, parce qu'au final, ça nous offre un sujet assez classique, mais avec des scènes qui sont un plaisir absolu. Et c'est des dilemmes moraux qu'il arrive à transmettre parfaitement à travers son image.
Ce qui fait aussi la force du film, c'est que c'est pas un récit chronologique. C'est-à-dire que c'est un film qui a une vraie ambition dans la manière de raconter son histoire, qui fait des allers-retours comme ça temporels, enfin qui est un film assez riche. On n'est jamais perdu, hein. On suit tout cela sans être perdu, mais c'est assez impressionnant. Et puis, en vérité, le vrai sujet du film, c'est le calvaire d'un homme, en fait. Hein. C'est le calvaire de ce personnage qui est un personnage de tragédie, en fait, hein, et qui rappelle ce personnage, c'est presque comme un personnage victime d'une malédiction, quelque part, et qui peut évoquer, par exemple, des films japonais comme la série des Baby Cartes avec son sabreur, ou bien encore japonais, Kobayashi, le révolté d'Arakiri. Le film, lors de son final, qui est magnifique parce qu'il y a le bruit des vagues se mêle au bruit des lames, et puis les personnages sont en contre-jour comme ça. C'est une manière de rejouer aussi le film de Kurosawa, La légende du grand judo. Voilà. Et le film a ces qualités-là qui font que ce n'est pas un film classique, comme tu disais tout à l'heure. Ça part d'une histoire classique de vengeance pour en faire totalement autre chose, en vérité. Et c'est un film d'une grande plasticité, d'une grande beauté, et qui est aussi comment dire, un film politiquement très intéressant, puisqu'on peut y lire en filigrane une opposition justement entre cette figure de la résistance taïwanaise face à la Chine. Et alors effectivement, on peut On peut trouver aujourd'hui, tu dis qu'il y a des scènes en accéléré, ça c'est vrai, on peut trouver aujourd'hui que ces procédés-là de mise en scène sont peut-être moins adaptés. Moi, ça ne me gêne pas du tout en regardant le film. Moi, j'avoue que, en termes de maîtrise des combats, je préfère encore le travail de Liu Xialong, la 36e chambre de Shaolin, les 18 armes légendaires du Kung-Fu, combat de maître, etc., etc., où lui, il arrivait en plus à intégrer la notion de plan-séquence dans ses chorégraphies. Mais le film de Joseph Kuo est presque un classique instantané, j'ai envie de dire, quand on le regarde. Et c'est vraiment un très, très, très bon film de sabre. De toute façon, ça démarre très fort, il y a un très beau travelling au début. Tout ça. Enfin, on sait tout de suite qu'on va avoir affaire à du grand cinéma. Donc, moi, je suis content, je n'avais jamais vu ce film. Donc, je remercie Carlotta de m'avoir fait découvrir la Vengeance du Dragon Noir de Joseph Kuo.
18年的岁月，无时无刻不被这桩心事折磨着，走遍大江南北，寻找仇家。
Vous écoutez Culture Prohibée. On va rester chez Carlotta Film pour causer d'un film qui s'appelle The Moon Warriors de Sammo Hung. Alors, je le mets un peu à part des autres, celui-là, et j'avais envie d'en parler après le Joseph Kuo. Pourquoi ? Parce que dans le Joseph Kuo, on est pas mal sur les prémices du Wuxiapan, on va dire. Hein. Donc, et là, on est face à un pur Wuxiapan, signé Sammo Hung. Vous savez, Sammo Hung, c'est le sidekick de Jackie Chan, c'est son pote, ils ont fait l'école du cirque ensemble à Pékin, et du coup, on est habitué à voir Sammo Hung, personnage faussement ventripotent, parce qu'artiste martial exceptionnel, hein, dans le SPL de Wilson Yip, il est vieux, et pourtant il envoie du lourd encore en termes de bastonnade, ça rigole pas, donc très grand artiste martial. Et souvent, les spectateurs européens ignorent que... parce qu'il le connaît surtout à travers une série télé où il fait un gentil flic, là, je sais plus, enfin bon, bref, que j'ai jamais regardé, mais je sais que souvent quand je vais voir des films avec Sammo Hung aux gens, les gens me disent, oh oui, mais c'est la série qui passait à la télé, là. Ah bon, d'accord, ok.
La série, c'est le flic de Shanghai.
Le flic de Shanghai, bah voilà, bon, que j'ai jamais vu. Mais en tout cas, visiblement, ça a marqué les spectateurs français, les téléspectateurs français. Et c'est aussi un réalisateur, et un réalisateur de films quand même, parfois, waouh, assez costaud, assez cruel, assez singulier. Et l'exorciste chinois, tout ça. Enfin, il n'a pas fait que des films de baston. Bon, souvent il apparaît dans ses films quand même. Là, dans celui-là, il apparaît pas. Dans The Moon Warriors, comment dire, on se retrouve face à un film qui est un peu la queue de comète du Wuxiapan, puisque c'est un genre qui tombe presque en désuétude à ce moment-là, qui va être relancé, hein, mais qui est un genre qui avait été vraiment lancé par Zhou, les guerriers de la montagne magique, les histoires de fantômes chinois, où on mène comme ça des combats très cordés, si je puis m'exprimer ainsi, et très surréalistes, hein, avec de la magie, des histoires de contes. Et là, on est complètement dedans. Sammo Hung met en scène Andy Lau, qui fait un pêcheur, un un homme du peuple, quelqu'un de simple. Bon, il est beau comme un dieu, c'est Andilo, quoi. Mais bon, voilà, c'est censé être un mec du peuple, un pêcheur. Et il tombe par hasard sur le 13e prince et le sauve d'une tentative d'assassinat orchestrée par son frère. Le prince, ainsi que sa future femme, Yuette et Zien, qui veillent sur lui, va trouver refuge dans le village de ce pêcheur. Et évidemment, il va y avoir des attaques, tout ça. Et puis, je ne vous ai pas dit que pour ceux qui aiment les actrices hongkongaises, la regrettée Anita Moy et Maggie Cheung sont au casting de ce film. Hein, c'est les rôles féminins principaux. On avait parlé d'elle dans Heroic Trio, qui est disponible aussi chez Carlotta Film. Les deux belles égéries du cinéma hongkongais qui, là, ont à jouer quand même des rôles nettement plus intéressants et nettement plus élaborés. Là, c'est la période où Maggie Cheung est un peu en train de s'émanciper des rôles que lui faisait jouer Jackie Chan, où elle servait toujours de potiche, en fait, en vérité, il faut dire ce qu'il y a dans les Police Story, tout ça. C'était la belle-fille qui était là, et là, on découvre que c'est une actrice, et on le saura plus tard, puisqu'elle va finir par jouer chez Asayas, tout ça, mais à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait une telle actrice en elle, puis Anita Moy, on connaît tout le talent, qui malheureusement décédera très jeune. Et le film, en fait, mon cher Damien, c'est un... Wuxiapan qui est assez étonnant parce que contrairement là à l'époque, le Wuxiapan est relancé par Il était une fois en Chine. C'est pour ça que l'ami Sammo Hung s'engouffre un peu dans la brèche de ce genre qui était réputé à bout de souffle. Et le film est assez étonnant parce que le film est, ma foi, loin d'être aussi tendre et mignon que ne le laisse apparaître le côté conte du départ.
The Moon Warrior est toujours surprenant. Dès son introduction, on va voir notre paysan en train de couper du bambou dans une joie extrême au point de se découper une flûte dans le bambou, à commencer à jouer de la flûte avec ce bambou, et on voit très bien que le son ne sort pas de la flûte qu'il a fait, avant que les bambous autour de lui commencent à bouger, puis que d'en dessous la terre sortent les méchants qui étaient déguisés en bambou. Dès le début, ça a donné un très bon ton au film, et c'est un film qui est extrêmement généreux. Tout du long, il va donner énormément de choses, notamment une des meilleures introductions de vilain que j'ai pu voir, qui s'amuse à tirer au tir à l'arc sur une falaise, à jouer en même temps aux échecs avec plusieurs de ses généraux pour tous les battre aux échecs, avant que le mec qui est raté au début la capture en bambou revienne, qui lui découpe la tête, qui décoche une flèche, qui passe dans des flammes, qui vont se planter contre la montagne, qui allume toutes les flèches et qui donne le nom de l'armée du méchant. Alors quand je dis que c'était généreux, c'était extrêmement généreux. Dit comme ça, en fait, le méchant, il semble un peu parodique et il veut juste le pouvoir. Par contre, je m'attendais à ce que ce soit un méchant qui soit purement parodique. Et en fait, cette scène sert aussi à montrer que c'est un méchant qui est extrêmement fort. Et c'est quelque chose qu'on se rendra compte à la fin, où il va falloir quasiment tous les personnages du film pour essayer de l'arrêter. C'est un film qui, quand je dis qu'il était surprenant, il y a plusieurs choses qu'il met en avant. Par exemple, quand on présente le 14e prince, qui est le personnage un peu qui fait partie des personnages principaux, il devient ami avec le pêcheur, et ce 14e prince est suivi d'une servante, et on sent qu'il y a un triangle amoureux qui est censé être mis en place, mais juste derrière, on va rajouter le personnage de la princesse et on va transformer ce triangle au carré. C'est un film où, au final, on n'arrive jamais à voir où il veut aller, même dans ses intermèdes amusants, lorsqu'on découvre que notre paysan, son meilleur ami, c'est un orque et qu'il aime bien jouer avec le matin en se réveillant. C'est vrai.
J'avais oublié l'orque, c'est vrai.
J'ai pas oublié l'orque, qui est le deus ex machina important du film. Mais c'est vraiment un film qui surprend à nouveau parce qu'il est généreux et ça le rend amusant, mais aussi parce qu'au niveau de l'intrigue, il arrive toujours à nous emmener quelque part. Le problème que je lui reprocherais, c'est vraiment le son, où au bout d'un moment, le bruitage des épées et des sceaux est parfois abusif, au point que je me suis demandé tout du long si c'était pas une parodie, et on s'en rapproche peut-être vu qu'on arrive au bout de souffle du film. Mais t'as quand même des plans qui sont très marquants, notamment je repense au moment où on découvre la princesse qui est en train de jouer avec ses servantes au cerf-volant, que d'un coup elle va parler au moment où elle demande à ses servantes de revenir. Le premier plan qu'on a, ce sont toutes ces servantes qui sont mortes allongées dans le champ, et on comprend en fait ce sont les ennemis qui se préparent à attaquer. En tout cas, c'est un de mes films préférés de la sélection, et je pense que nos auditeurs et auditrices l'ont compris parce qu'il est extrêmement amusant, son action est géniale, son histoire nous prend bien et nous parvient à nous surprendre pour nous offrir quelque chose de toujours plus exagéré mais divertissant.
Je rejoins un peu Damien sur le fait que le film soit généreux, parce que il y a ce petit côté un peu niais dans la façon dont les personnages jouent, dont elles sont écrites, etc. Mais en même temps, quand même, ça gicle quand même pas mal. Hein. Il y a quand même de l'hémoglobine à foison, beaucoup plus que dans La Vengeance du Dragon Noir.
J'ajouterais que le film The Moon Warriors est quand même une dimension tragique, quand même aussi. Les sentiments amoureux tiraillés de Maggie Cheung, la fin qui est assez tragique en vérité, et surprenante d'ailleurs vu le ton général du film, et puis les contrepoints que Thomas évoquait, c'est-à-dire mais qui sont assez courants en fait dans le cinéma hongkongais, mais le côté naïf de l'histoire qui moi me plaît beaucoup, hein, parce que c'est un conte que j'aime beaucoup, parce que faut savoir retrouver son âme d'enfant des fois quand même, hein, et parce que c'est un côté naïf, mais c'est un côté naïf pas nié, quoi, qui est effectivement contrebalancé par des moments de grande violence. Donc ce The Moon Warriors de Sammo Hung est disponible chez Carlotta Film, d'ailleurs comme tous les films dont on parle dans cette émission aujourd'hui. Écoutez Culture Prohibée spéciale cinéma hongkongais. On va basculer maintenant dans ce qui a permis, faut le dire, au cinéma hongkongais et à ses metteurs en scène d'être courtisés par Hollywood. Hein, c'est les films d'action, via surtout des polars d'ailleurs très stylisés, des années 80-90. Si le maître reste le lyrique John Woo, hein, alors par exemple The Killer, à toute épreuve, une balle dans la tête, Ringo Lam, avec ses City on Fire, ses Prison on Fire, n'est pas loin derrière. Et Carlotta nous propose de redécouvrir un film qui a plutôt d'ailleurs pas une bonne réputation, hein, dans la filmo de Ringo Lam, qui est un peu son mission impossible à lui, hein, à savoir, mon cher Thomas, Guerre de l'Ombre.
Oui, alors là, ça rigole pas du tout, hein, encore moins que The Moon Warriors ou encore La Vengeance du Dragon Noir. Alors ça commence très fort, hein, c'est un ambassadeur, enfin il y a une histoire de... en Pologne, cette histoire de Solidarnosc, mais tout le monde n'est visiblement pas d'accord et veut faire capoter le truc où les Américains veulent aider le gouvernement polonais, Mais l'ambassadeur se fait flinguer avec sa femme et son gamin qui vient de naître. Alors ça rigole pas du tout. La première séquence est d'une extrême violence. Parce que quand même, faire mourir des gamins à l'écran, surtout des nouveau-nés, c'est pas évident.
À la grenade, le nouveau-né.
Et oui, à la grenade. Et c'est le méchant du film qui le fait. Hein. Et donc, le frère de l'ambassadeur n'aura qu'une idée en tête, c'est retrouver ce terroriste pour évidemment lui faire la peau, parce que le terroriste est évidemment très méchant. Le film commence très fort avec plusieurs scènes d'action qui se succèdent comme ça, où il y a une poursuite notamment. Je pense que Michael Bay s'en est inspiré, parce qu'il y a quand même un moment où les personnages y balancent des cadavres sur la route pour empêcher les poursuivants de les atteindre. Et donc ça, on retrouve ça dans Bad Boys 2, hein, ce grand film, cette grande ode à la vulgarité. Donc comme ça, le film commence très fort comme ça. Moi, je suis pris dans le film, mais il y a un moment où je trouve qu'il y a... Il y a un moment où le film, il a une faiblesse. C'est, bien sûr, le personnage principal, qui est un Américain, va devoir se confronter à la police hongkongaise. Ils n'ont pas du tout les mêmes méthodes, les mêmes objectifs. Et il y a ce côté buddy movie au milieu du film qui fait que là, ça devient un petit peu plus convenu. Je trouve que le film, il se perd un peu dans des blagues un peu lourdes, avant de reprendre un rythme beaucoup plus intéressant avec le méchant, il est odieux, hein. Il tue des femmes, il est manipulateur. C'est vraiment avec des scènes d'action quand même assez novatrices au niveau du montage, au niveau du découpage, notamment une scène de combat à main nue sur un pont qui est assez époustouflante au niveau de la façon dont Ringolam découpe sa bagarre.
Ringolam, c'est un maître, hein, vraiment. Hein. On l'a un peu oublié aujourd'hui parce qu'on parle souvent de John Woo, de Chuark ou de Johnito, mais Ringolam, c'est un maître qui a fait des films complètement dingues et un des meilleurs filmeurs d'action qui soit. Là, le film est un peu particulier parce que il a une distribution internationale aussi. Donc ce méchant, qui est très 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 méchant, hein, sorte de version, sous anabolisant de Freddie Mercury, c'est Vernon Wells. Alors Vernon Wells, c'est quand même pas n'importe qui, c'est un grand méchant des années 80, puisque c'est l'ennemi de Schwarzy dans Commando. J'adore Commando de Mark Lester. Faut le savoir, tout le monde dit que c'est un mauvais film. Moi, j'adore ce film, il est typique des années 80. Je pense que beaucoup de films qui essayent de copier aujourd'hui des années 80 n'arrivent pas à la cheville de ce chef-d'œuvre qu'est Commando. Bon, là, je pousse un peu, mais j'adore vraiment Commando, j'ai dû le voir au moins 40 fois, ce film. Voilà. Donc, je me le remettrai bien, d'ailleurs, ce soir. Tiens, voilà, tant qu'à faire. Il y a Vernon Wells, alors qu'on avait vu aussi dans Mad Max 2, tout ça, qui a un côté un peu gay-friendly, qui est un peu étonnant, qui est un drôle de méchant, qui d'ailleurs, là, je trouve, fait une de ses meilleures compositions, parce qu'il a aussi un côté Monte Cristo, Fantomas, quoi, de génie du mal, qui se maquille, qui se déguise. Et puis, il y a une de ses alliées, vous ne pouvez pas être son allié, mais bon, c'est comme ça, c'est la belle Olivia Hussey. Moi, j'aime beaucoup Olivia Hussey, qui est une actrice qui a prétourné dans tout ce qui se faisait dans tous les pays, qui était une actrice très belle. Et même si là, elle n'a pas le personnage le mieux écrit, parce qu'on a un peu du mal à comprendre ses motivations dans ce contexte de guerre froide qui vient presque à son terme et qui voit en fait des grandes puissances s'affronter pour continuer en fait à empêcher que que Solidarnosc réussisse, parce que c'est une histoire internationale, c'est un gros truc d'espionnage. Et en plus, il y a parce que lui, il dirige Vernon Wells, une armée, une sorte d'armée rouge, quoi, voilà, internationale, enfin une sorte d'armée de terroristes. Donc il y a toute cette distribution internationale. Alors comme tu l'as dit, Thomas, Il y a le côté un peu double détente, hein, et qui est pareil. Hein, faut croire que les films, on essaye de mélanger des occidentaux avec des asiatiques, mais des occidentaux avec des communistes, ça marche pas des masses, parce que double détente, c'est pareil. Le film souffre d'un, est très agréable à regarder, mais souffre d'un petit manque de rythme dans son milieu. Il a un gros ventre mou, et là c'est pareil. Le film, c'est vrai, a un ventre mou. Alors moi, je mettrais ça aussi sur le compte du fait qu'il y a des personnages en fait qui sont assez subalternes. Enfin, la journaliste là qui est interprétée par Rosamund Kwan, elle est très belle, elle est très, c'est un personnage, mais c'est un personnage, elle est clairement là parce qu'elle est belle, enfin je veux dire, c'est une très bonne actrice, c'est pas le problème, mais on lui fait rien jouer là, son personnage sert à rien. S'il n'y a pas son personnage en fait, ça gêne pas l'histoire en fait, c'est assez étonnant. Et puis il y a Danny Lee, moi je suis pas fan de Danny Lee quoi, le héros, je le trouve un peu fadasse quoi. En tout cas, je trouve c'est un bon acteur dans d'autres domaines, mais pour les films d'action, je le trouve pas toujours très percutant, pas toujours, enfin bref, c'est pas ce que je préfère quoi dans le film. Moi, ce que j'aime dans le film en fait, c'est et c'est là qu'on voit que Ringo Lam, c'est un sacré metteur en scène, pour pas dire de gros mots, j'allais dire autre chose, c'est toutes les scènes d'action qui sont dantesques quoi. Et Thomas, tu l'as dit, les 20 premières, rien que pour les 20 premières minutes, faut voir le film quoi.
C'est surtout, c'est qu'il ose tout quoi. Enfin, je vais pas dire comme Michel Audiard, hein. Je veux dire, c'est qu'il ose faire des choses quoi. Par exemple, il y a une scène d'action lors d'un enterrement. Je veux dire, c'est quand même des choses incroyables à voir au cinéma. Et puis cette façon de jeter des cadavres, donc Michael Bay n'est pas novateur là-dessus. Et aussi cette grenade balancée dans la bagnole sur un nouveau-né, etc. Je veux dire, il va quand même loin dans le truc. Et la fin aussi, elle est quand même incroyable aussi, la façon dont il élimine le méchant, etc. C'est quand même, il va quand même très loin dans la représentation de la violence.
En plus des grenades, le truc que je rajouterais, c'est l'ambiance que je trouve est bien retranscrite de Hong Kong à ce moment-là, avec les différentes forces en puissance. C'est-à-dire les Hongkongais, les Anglais encore présents et les USA qui débarquent, qui veulent essayer de mettre de jouer des gros muscles pour intervenir. Je trouve que l'ambiance force de l'ordre qu'il y a dans le film est très intéressante, en plus des grenades.
Sur l'aspect politique, le film est vraiment intéressant. Moi, je regrette juste qu'il y ait des... Effectivement, il y a une profusion de personnages dont certains, on s'en serait bien passé. Et le film aurait gagné à être resserré parce que les moments où... il y a des moments exceptionnels dans le film. Enfin, Thomas l'a très bien résumé. Enfin, c'est Ringo Lam, quoi. Donc il faut absolument voir ce film. Vous ne le regretterez pas. Si vous aimez le cinéma d'action, c'est pas filmé plan-plan, là. Hein. Là, il y a du découpage, il y a du boulot, là. Hein. C'est du gros boulot. Donc, Guerre de l'ombre, un film de 90 de Ringo Lam, qui est donc disponible chez Carlotta Film. Écoutez Culture Prohibée spécial cinéma hongkongais. Comme le film suivant, toujours chez Carlotta Film, qui s'appelle Bullets Over Summer. Alors, c'est le film d'un réalisateur qui va exploser, mais bien plus tard, en fait. Hein, pour le coup, dans les années 2000, avec la série des Ip Man. Hein, Ip Man, avec Donnie Yen. Excellente série, hein, moi j'adore. Hein, de toute façon, j'adore Donnie Yen. Avec qui ils travaillent beaucoup, hein, puisqu'on leur doit aussi les très bons SPL et Flashpoint. Donc SPL, dont on parlait tout à l'heure, avec un méchant interprété par Sammo Hung. Thomas, on est en 1999. Wilson Yip a débuté sa carrière en 1995. On est vraiment au tout début de sa carrière de metteur en scène. Et Bullets Over Summer, c'est une œuvre de jeunesse, mais c'est aussi son premier film important qui va remporter pas mal de prix à l'époque et qui est une histoire, c'est un film vraiment étrange, qui raconte l'histoire de deux flics qui, pour coincer un criminel, s'installent chez une dame âgée qui perd un peu la raison, sont en planque en fait pour l'observer et pouvoir le choper, quoi, pour choper un criminel très très sanguinaire. Donc ils se mettent en face d'un des membres du gang, enfin ce qu'ils pensent être un des membres du gang, pour essayer de l'attraper et de coincer le gang.
Alors, comme le film de Ryan Gollam, le film commence très fort. Alors, ça commence déjà par personnifier le duo de flics. Hein, on est toujours dans le buddy movie, avec un flic un peu rigide qui n'hésite pas à affronter le danger de façon plus ou moins maligne. Et il y a un autre flic qui, lui, est plus désinvolte. Et après, ça enchaîne sur une séquence de braquage qui est d'une violence. Mais alors, incroyable. On se dit, ça va être un super polar. Mené tambour battant, etc. Mais en fait, non. Il y a un gros ventre mou, mais alors vraiment un très gros ventre mou, une heure, où on se demande où le scénariste et le réalisateur, on se demande s'ils savent vraiment où ils vont, en fait. Parce que c'est un peu brouillon, ça part dans tous les sens, ça fait comédie. Et en fait, donc oui, il s'installe chez une dame âgée en planque qui a Alzheimer, qui prend les deux flics pour ses fils, en fait. Et en fait, le film me fait penser à Étroite surveillance de John Badham. C'est la même structure. Donc deux flics qui vont en planque face à l'habitat du malfrat où il va se pointer à un moment ou d'un autre dans le film. Et puis à la fin, explosion de violence, etc. C'est la même structure, c'est plus ou moins le même schéma, policier, comédie. Et là, je trouve que le film, quand même, il est beaucoup moins bien maîtrisé au niveau du scénario que le film de John Badham. Je trouve que c'est pas très drôle, les blagues sont un peu lourdes. On se demande vraiment où ils vont, quoi. Et puis, à la fin, explosion de violence, réapparition du méchant, du gang. Mais encore une fois, je suis déçu parce que il y a un retournement de situation qui fait que je trouve que ça colle pas vraiment avec le début du film, la personnification des personnages, même s'il y a des pistes concernant l'un d'eux. Je trouve qu'on va ailleurs. Enfin, non, le film ne me convainc pas plus que ça, alors que pourtant il commençait vraiment bien.
Ouais, c'est un film étrange. C'est un film qui a un côté bancal, en fait. Et pourtant, c'est ce qui a dû plaire à l'époque, puisque le film avait été primé pour son scénario. Donc, c'est quand même étonnant. Hein, à l'équivalent des Césars hongkongais, il avait été primé pour son scénario. Toi, Damien, est-ce que tu t'es laissé prendre par cet étrange film, en fin de compte, qui démarre comme un polar hard-boiled pour devenir presque une sorte de comédie dramatique, quoi?
Je suis comme Thomas, je suis déçu parce que vraiment les 5 premières minutes, vraiment, elles arrachent. Tout fonctionne parfaitement. Le braquage que les deux policiers arrêtent avec cette technique ultra bizarre de larrente pour manger des chips. Une femme se prend en otage, il parle de sa poitrine pour détourner l'attention du tireur. Tout fonctionne. Et juste derrière, le fait qu'on enchaîne sur un gang qui est ultra violent, qui se déguise en flic, qui massacre des gens, on a tout pour... je sais pas, l'équivalent d'un bad boy version hongkongaise, pour revenir sur Thomas qui parlait de B. Mais au final, derrière, ça enchaîne sur ce qui est plus une comédie dramatique. Il y a quelques moments, il va remettre de l'action pour essayer de recaptiver. Et chaque moment de tension qu'il crée fonctionne. Il y a un moment où le flic rigide, justement, rentre dans l'appart du suspect. Le suspect revient en même temps, on a toute une scène où les deux vont être côte à côte, l'un est caché et l'autre est dans son appart et se dit qu'il y a un truc qui est bizarre. Flic rigide qui est joué par Louis Coe, si je ne me trompe pas, qui joue cette année dans City of Madness, dans lequel joue Sammo Hung. Donc les deux restent plus ou moins dans la même sphère. Et c'est un film qui prend cette tournure comédie dramatique avec la grand-mère stérile qui sert de gang, mais aussi à mettre en avant ce personnage âgé dans la solitude de sa vie. Il y a un autre personnage qui est la femme enceinte qui essaye de faire tourner sa boutique alors qu'elle va bientôt accoucher et qui a du mal à faire certaines actions. On a notre policier rigide qui apprend qu'il est atteint d'une maladie qui va faire qu'il va peut-être pas développer, continuer sa les carrés, exactement. Et le film, au fur et à mesure, commence à mettre des petites billes où les gens ont des problèmes dans leur vie qui sert à la fois de gag et en même temps qui, moi, apparaît un plus comme un certain drame. Ce qui, au final, est extrêmement bizarre. Tout ça pour nous emmener vers la fin avec un retournement de situation... sur le gang qui, lorsqu'il débarque, m'a un peu exaspéré, mais vu que derrière il y a scène d'action, ça confirme que oui, il sait ce qu'il fait derrière une caméra, il sait faire de l'action, mais pour moi, c'était pas son ambition dans son film là, c'était justement d'apporter quelque chose de beaucoup plus intimiste, une réflexion sur les gens.
Damien, Louis Co, c'est Nengren en fait, c'est plutôt le flic des contrats, pas sérieux, un peu paumé, le sale gosse. Le flic sérieux, c'est Francis NG qui est un c'est pareil, qui est une véritable star hongkongaise, hein. Et il y a quand même un aspect dont on n'a pas parlé en fait, depuis tout à l'heure, parce que c'est pas non plus un mauvais film, hein. C'est juste que le film nous donne à espérer quelque chose au début qu'on n'a pas ensuite. Et après, il y a, parce que c'est quand même des personnages paumés en fait. Il y en a un qui s'est condamné, donc il ne veut pas s'engager dans une relation, mais il va quand même tomber amoureux. Alors bon, ça a un côté mélo, un peu sur... typique, hein, de la production hongkongaise. On ne fait pas dans la demi-mesure quand on fait dans la love story et dans le mélo à Hong Kong. Hein, ça, c'est une constante du cinéma hongkongais. Et donc là, évidemment, il y a un côté mélo... comment dire, où tout est souligné au marqueur, quoi. Voilà, si t'as pas compris, on en remet une couche, quoi, pour que tu comprennes bien. Et en fait, c'est à un moment, en fait, pour moi, le vrai problème du film, puis bon, il y a un truc dont on n'a pas parlé, je voulais parler, c'est la relation entre les deux flics, parce qu'en fait, le chien fou va changer au contact du... Alors, malgré, oui, effectivement, il y a de l'humour douteux, hein, Thomas, t'as raison, du bon gros humour beauf, pas drôle du tout, d'ailleurs. Et le personnage va changer au contact de ce flic plus sérieux. Ils vont apprendre à se connaître, et puis, surtout, il va y avoir une sorte de... comme cette vieille dame qui revoit sa famille. Et donc, en fait, c'est une famille de substitution qui va se créer. Il y a aussi une très jeune femme, qui est une adolescente en fugue, très certainement, qui vient souvent dans l'appart. D'ailleurs, ça n'a pas beaucoup de sens, parce qu'un flic qui voit arriver une jeune femme comme ça, il va tout de suite chercher à savoir qui est-ce, à la ramener à ses parents. Enfin, voilà... normalement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Et pas comme ça se passe dans le film. Et puis, il y a aussi des trucs assez déments, assez fous. C'est qu'à un moment, il devient le il va aux réunions de copropriété, réunion du syndic, et à un moment, il se retrouve nommé président, le flic sérieux, se retrouve nommé président du syndic de l'immeuble, ce qui est quand même... assez surréaliste ce moment dans le film. Bon, après, ça va avoir son importance, hein, dans le déroulement de l'intrigue, mais c'est quand même assez surréaliste. Et par contre, il y a une scène, moi, que j'aime beaucoup, c'est une scène de repas. Parce que le méchant est super. Hein. Le méchant, il est trop flippant, mais un truc dingue. Quoi. Le méchant, tu le vois dans la rue. Il est tout maigrichon et tout ça, mais tu le vois dans la rue, tu changes de trottoir. Il a une tête trop flippante. Ça se trouve, c'est le plus gentil des hommes. Hein. Mais là, dans le film, il est très flippant. Et il y a une scène de repas avec une tension palpable. Là, on sent bien la maîtrise de l'espace de Wilson Yip, qui développera, hein, dans ses scènes d'action plus tard. On le sent aussi à un moment, il y a une scène où ils pensent qu'ils vont devoir, ils vont se faire découvrir par le type en face, et il y a un des deux flics qui est sur le toit au-dessus du balcon et tout ça. Et bon, c'est désamorcé par un processus comique, voilà, mais... Néanmoins, on sent que dans la maîtrise de l'espace, enfin, on sent qu'il y a en germe un réalisateur quand même. On sent qu'il y a quelque chose. Et dans cette scène de repas, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a une grosse tension, quoi.
Ouais, et puis dans la scène du balcon, il y a un petit côté Hitchcock aussi, hein.
Tout à fait. Non, on sent que Wilson Yip en a sous le pied. Ça va se confirmer avec ses films suivants. Moi, je le vois comme une œuvre de jeunesse. Par contre, je suis complètement d'accord avec vous, c'est-à-dire que le film a un énorme ventre mou entre son début et sa presque fin, parce que sa toute fin totalement mélo, un peu sirupeuse, me fatigue un peu, mais par contre, dès le retour du méchant, quand même, ça devient vachement mieux, quoi. Et puis, y a cette scène de repas que j'aime beaucoup, voilà. Donc, œuvre de jeunesse de Wilson Yip qu'on vous conseille, donc Bullets Over Summer, qui est disponible chez Carlotta Film. Vous écoutez Culture Prohibée. Terminé, un film avec Leslie Cheung et Michelle Yeoh, elle a un second rôle secondaire, mais bon, et qui est un film signé Daniel Lee. Alors, et puisque, bon, selon Thomas Roland, je n'ai pas de cœur, hein, m'a déjà-t-il dit, on va conclure cette émission donc par ce film singulier qui s'appelle Moonlight Express. Donc là aussi, hein, une œuvre de jeunesse, hein, puisque... c'est un des premiers films de Daniel Lee, son deuxième, je crois, son premier, c'était Frères d'armes, un film qui se fait déjà grandement remarquer, hein, puisqu'il va tout de suite avoir une sortie internationale. C'est un film assez marquant, un film de 94. Là, on est en 95, et il fait le futur réalisateur de Black Mask, et qui fera les beaux jours de la collection HK chez HK Vidéo, hein, à l'époque. Il signe là une œuvre assez originale, mon cher Thomas. Si j'ai un cœur, parce que figure-toi que le film, bon, malgré ses côtés gnangnans inhérents à la manière dont la romance est racontée assez généralement dans le cinéma hongkongais, mais malgré tout cela, je suis passé au-dessus, parce qu'il y a un sacré boulot de mise en scène, parce que c'est un sacré film, en fait, que ce Moonlight Express de Daniel Lee, mon cher Thomas.
Ouais, oui, GG a aimé, donc c'est la preuve que la greffe du cœur réussit. Voilà, et Moonlight Express, effectivement, est un mélange de films romantiques et de polars. Et moi, j'aime bien ce genre de mélange-là, ça me plaît bien, ce côté mélancolique. Alors, l'histoire, c'est une jeune femme qui est sur le point de se marier avec un Coréen, c'est une Japonaise qui est sur le point de se marier avec un Coréen. Et bien sûr, ne faites pas ça chez vous, il veut répondre au téléphone alors qu'il conduit. Alors, effectivement, bien sûr, accident, le futur époux meurt, mais la jeune femme survit. Et pétrie de chagrin, elle décide de faire un pèlerinage en Corée, dans l'appartement de son futur ex-mari.
Et au terme d'un concours de circonstances, elle se retrouve face à ce flic, à un flic qui en fait est le sosie de son défunt futur mari. Le flic est infiltré et pour ne pas se faire griller, il tombe dans ses bras pour faire croire qu'en fait il avait rendez-vous avec sa dulcinée. Et voilà, c'est là, c'est la machine, il remet en route la machine parce que bien sûr, elle va retomber dans le panneau et continuer à être amoureuse de cet homme qui n'est pas son mari mais qu'elle va prendre comme substitution de son mari. Et bien sûr, ce flic infiltré essaie de démanteler un réseau de trafic de drogue, hein, c'est ça, un trafic de drogue. Et bien sûr, il va y avoir de nombreuses péripéties qui font qu'il va se retrouver lui aussi traqué. Et donc, il y a cette histoire de romance et de film policier qui va s'imbriquer l'un dans l'autre. Et quelque part, je trouve que le film, il est beau. Hein. Techniquement, il y a une belle photographie, c'est du cinémascope. C'est vraiment un beau film, un film bien maîtrisé. Avec des belles scènes d'action. Et je trouve qu'il y a ce souffle romantique qui le traverse à travers cette intrigue policière. Et quelque part, il me fait aussi penser dans sa structure à Witness, parce que les personnages, à un moment dans le film, vont devoir aller se cacher quelque part dans une autre communauté pour échapper aux méchants trafiquants qui les poursuivent. Et puis aussi, bien sûr, il y a une histoire de corruption.
Ah ben, je crois que tu as dit beaucoup de choses. Alors le film a effectivement une très belle photo où on joue sur les teintes et les couleurs et des confrontations en fait entre divers aspects chromatiques. On va avoir une ville assez bleuté, désincarné, avec une photographie très très, c'est très marquant, c'est vraiment volontaire, hein. Très désincarné. Et dès que, par exemple, on va aller chez Michel Yeo, là, dans son petit ranch, là, dans son petit, voilà, où il va aller retrouver celle qu'il appelle sa sœur, ce flic infiltré, avec sa dulcinée, donc il va aller retrouver celle qu'il appelle sa sœur. Tout à coup, la lumière change, presque mordorée, orangée. C'est très lumineux. C'est comme une sorte de parenthèse enchantée dans le film. C'est très très beau. Le couple fonctionne bien, en plus ça matche bien. C'est-à-dire que Leslie Cheung, bon, il est très beau, mais il a aussi Leslie Cheung un énorme charisme, quoi. Donc qui fait que il emporte tout sur son passage. Même quand il joue un peu le Marie Frimer au début, là, ça passe. Mais après, la scène d'accident, elle est quand même assez incroyable parce qu'au début, on croit plutôt que c'est elle qui est morte. C'est-à-dire qu'il y a le jeu de la mise en scène des champs contre champs et de l'utilisation de cet outil qu'est le téléphone. Enfin là, on voit quand même qu'il y a un metteur en scène, quoi. C'est-à-dire que là, c'est pas fainéant du tout, quoi. La scène, elle est assez marquante. Pourtant, c'est couillon le coup de je prends le téléphone, je me retourne la voiture et tout. Ok, bon. Sauf que c'est très bien fait. Et puis, il y a un moment, une sorte de... En jouant avec l'aspect chromatique, en fait, il y a une colorimétrie particulière aux scènes amoureuses, aux scènes de retrouvailles. Et en fait, en jouant sur cette colorimétrie, par moment, on est dans le trouble, en fait. On ne sait pas si cette femme, elle est avec ce flic ou elle est encore avec son mari. C'est très hitchcockien, c'est très palmaïen, si on veut. Enfin, c'est très étrange, en fait. C'est un film assez étrange, même si le film a des côtés un peu sirupeux, un peu lourdingue par moment, mais moi je trouve qu'il évite quand même énormément cet écueil. On est quand même bien loin de soulignements très lourds qu'on peut trouver dans d'autres films hongkongais. Et puis il y a cet aspect polar qui est un aspect, parce que les scènes d'action sont très bien réalisées et découpées. Et cet aspect polar très tendu, là pour le coup très scorchésien, puisqu'il y a effectivement cet aspect du flic infiltré, parce qu'il y a une confrontation à un moment, ça changerait de brigade selon qu'on s'occupe de trafic d'armes ou de trafic de drogue. Les personnages ont de l'épaisseur et il y a tout cet aspect corruption, que tu disais la corruption, mais c'est très bien amené parce qu'en fin de compte, à qui faire confiance ? C'est un grand film paranoïaque aussi. Ce type, on ne sait jamais vraiment à qui il peut faire confiance. Lui-même, il est infiltré, donc il ne peut pas faire confiance aux truands qui sont avec lui. Mais peut-il vraiment faire confiance aux flics qui l'entourent ? Qui a raison ? Qui a tort ? Et ça, c'est très très bien amené dans le film. C'est un film très prenant aussi de ce côté-là.
Oui, et puis aussi, je trouve qu'il y a une ambiguïté aussi au départ entre l'accident, ce personnage de flic, parce que finalement, au départ, on se dit mais c'est un flashback, il joue l'ambiguïté sur le fait que la perception que va avoir cette femme de ce flic par rapport à feu son futur mari, quoi. Et je trouve qu'il joue beaucoup là-dessus.
Ça, c'est un peu le coup de cœur quand même, hein, de la petite sélection là, le Moonlight Express de Daniel Lee. En tout cas, c'est un film très ambitieux. Mais on vous conseille également, évidemment, hein, tous les films dont on vous a parlé aujourd'hui. Bon, j'aime aussi beaucoup The Moon Warriors de Sammo Hung, j'avoue. Il y a aussi Guerre de l'ombre de Ringo Lam, avec des scènes d'action complètement dantesques, hein, on vous l'a dit. Bullets Over Summer de Wilson Yip. Et puis Or, Hong Kong, on vous a parlé aussi d'un petit film taïwanais de Joseph Koh qui s'appelle La Vengeance du Dragon Noir, film de sabre, on vous le conseille vivement, tout ça c'est chez Carlotta Film. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je vais bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine. We'll be right back.